La vérité n'est pas au milieu. Elle est là où elle est. Adam Michnik. La guerre de Poutine en Ukraine s'est transformée en véritable djihad russe. Sergueï Medvedev. 10 jours plus tôt. Transylvanie. Une seconde. Une seule petite seconde. Le temps de tomber la tête la première, le pied coincé dans un terrier. Une seconde pour que la vérité s'impose à Andriy Mikulin. Il n'en sortirait pas vivant. Le sentier par lequel l'Ukrainien s'enfuyait n'était qu'une mare de boue glissante. Sonné, il tarda à se dégager. Comment les Russes l'avaient-ils identifié? Bon Dieu, il avait toujours été sur ses gardes, surveillant ses contacts, appliquant scrupuleusement les procédures de sécurité de la DGSE. Il se trouvait sur les hauteurs de la forêt entourant les ruines du château de Teleki, à une 50aine de kilomètres de Cluj-Napoca, dans cette région de Roumanie qui s'appelle la Transylvanie. Les 3 hommes qui le pourchassaient ne se hâtaient pas. Leur meneur connaissait bien le coin, il savait que le chemin se terminait en cul-de-sac. Les 2 autres tenaient de gros poignards, dont la seule vue avait donné la chair de poule à Andriy Mikulin. Avec leur air vaguement goguenard, leur barbe et leur bonnet de laine descendus sur le front, ils n'avaient eu aucun mal à les identifier. Des Tchétchènes. Andriy Mikulin accéléra. Les pierres du sentier étaient tranchantes. Il dérapait avec sa chaussette mouillée, sentait déjà la peau de son pied droit se déchirer sous la morsure de la roche. Dans les forêts alentour, il aperçut une trouée. Il s'y engouffra. C'était un ancien chemin, quasiment impraticable, dont la pente était plus prononcée encore que celle du premier sentier. Soudain, l'Ukrainien perdit sa seconde chaussure. La cheville tordue, il tomba, le souffle coupé par la douleur. Une nouvelle fois, il se releva et reprit sa course. À quelque chose d'impalpable, il sentait que ses poursuivants n'avaient pas encore aperçu cette sente cachée. Cela le galvanisa. Enfin, il arriva au sommet. Il n'y avait qu'un petit monument aux morts en pierre grise, surmonté d'une croix noire. Les ruines du château étaient un peu plus loin, sur le promontoire. Il en fit le tour, jusqu'à ce qu'il pensait être sa voie de secours. La vue le glaça. La passerelle, qui permettait de redescendre, gisait, en partie démontée, dans l'herbe mouillée. Devant lui, il n'y avait que le vide. La paroi était presque à angle droit, un précipice qui tombait à pic. Il laissa éclater un sanglot de désespoir. La dernière fois qu'il était venu ici, 1 mois plus tôt, la passerelle était bien en place. Il se pencha. Plus bas, il apercevait le parking, avec un car de tourisme et quelques véhicules, dont le sien. Lorsqu'il était arrivé, 1 heure auparavant, c'était vide. Maintenant, les touristes se pressaient, mais ils étaient tous à plus de 15 minutes de marche, alors qu'il entendait les jurons de ses poursuivants, tout proches. Il était piégé, là-haut, seul et sans armes, avec 3 tueurs à ses trousses. Désespéré, il sortit la clé USB de sa poche, s'agenouilla au pied du monument. Il y avait de multiples anfractuosités dans la roche, juste au-dessus du socle de béton. Il y glissa l'objet avant de se redresser. Impossible de deviner que quelqu'un avait caché là quelque chose. Sur sa droite, à 30 mètres de lui, les 3 tueurs venaient d'apparaître. Ils eurent un sourire mauvais en l'apercevant. Andriy Mikulin, lui, ne voyait que les lames des 2 Tchétchènes. Refusant de se laisser égorger comme un animal, il prit son élan avant de sauter dans le vide avec un cri sauvage. Première partie. La quête. Chapitre 1. Paris.
Heureusement, il est mort sur le coup.
Laissa tomber d'une voix désabusée le colonel de la DGSE, connu sous le pseudo de Paul.
Il n'a pas souffert.
Il n'avait peut-être pas souffert, mais le résultat restait assez horrible à regarder, constata Edgar Van Scanna en repoussant la photo tirée d'une épaisse enveloppe. Celle d'un corps à demi réduit en bouillie. Un homme vêtu d'un costume pied de poule, au crâne bordé d'une couronne de cheveux roux. Sa nuque formait un angle étrange, tandis qu'une tache de sang et de matière cervicale s'étalait sous sa tête, aux os curieusement aplati par le choc. De qui s'agit-il ?
Andriy Mikulin, un de nos honorables correspondants. Un Ukrainien qui s'était expatrié en Roumanie comme journaliste freelance depuis une quinzaine d'années. Fiable. Étant originaire du Donbass, il avait de bons contacts dans le camp des séparatistes et était au courant de pas mal de choses. D'ailleurs, ce jour-là, il avait rendez-vous avec son officier traitant. Cela arrive souvent que d'honorables correspondants se suppriment ? Paul secoua la tête.
Ce n'était pas un suicide. Foutrement pas.
Un silence s'installa. Edgar en profita pour avaler une gorgée tiédasse sans masquer une grimace. Les salles à manger VIP de la DGSE se voulaient impressionnantes. En revanche, le thé qu'on y servait était imbuvable. Il avait reçu dans la nuit un message signal codé comme suit. 0630-77-1124-L8. Conformément au protocole de communication avec sa hiérarchie, Edgar devait ajouter 4 heures à tout horaire indiqué dans un message. 6h30 signifiait donc 10h30, 77 une priorité absolue, 1124 que l'émetteur du message était Paul, l'homme qui dirigeait le service des archives, le groupe action le plus secret de la DGSE. Quant à L8, cela désignait le lieu du rendez-vous, le boulevard Mortier à Paris. Un patchwork assez improbable de casernes historiques et de mochetés construites dans les années 70 qui constituait le siège de la DGSE. Seule modernité dans cet ensemble indigne du service de renseignement d'un des pays les plus riches du monde, le tunnel futuriste qui permettait de relier entre eux les bâtiments des deux côtés du boulevard. Fidèle à sa réputation non usurpée de bureaucratie, il avait fallu 20 ans à la DGSE pour le décider et 8 de plus pour le construire. À l'heure du rendez-vous, la voiture du directeur général de la centrale de renseignement attendait Edgar dans le 20e arrondissement à l'angle de la rue Saint-Fargeau. Après avoir donné le nom de code du moment, ce mois-là Rodez, il était monté à l'arrière de la berline Renault conduite par un ancien du service Action, comme tous ses condisciples, un garde du corps armé d'un fusil d'assaut HK à ses côtés. Pourquoi un commando pour l'accompagner sur 500 mètres dans Paris, lui, le spécialiste des missions les plus dangereuses, Edgar n'avait jamais eu la réponse. La voiture était ensuite remontée jusqu'à l'entrée principale de la DGSE, protégée par des herses et une grille en acier renforcé, qu'elle avait franchi sous le regard intrigué des agents de sécurité en combinaison de combat bleu marine. Grâce à ce stratagème réservé à quelques rares agents spéciaux comme lui, Edgar pouvait régulièrement entrer dans la caserne du boulevard Mortier pour rencontrer ses patrons sans décliner son identité. Car c'était ainsi. Les agents Sigma du très discret service des archives devaient rester des fantômes, des anonymes, même pour le service de sécurité interne de la DGSE. Edgar reposa sa tasse vide. Alors, ce meurtre, puisqu'il ne s'agit pas d'un suicide ?
Des témoins ont parlé de 3 hommes au look pas franchement blanc-bleu qui seraient descendus précipitamment de la colline peu de temps après la chute d'Andriy Mikulin. Il est probable qu'il a sauté pour leur échapper. À moins que ce ne soit eux qui l'aient balancé du promontoire. On ne le saura sans doute jamais.
Edgar prit les clichés de l'autopsie. On sait qui étaient ces assaillants ?
Bonnet noir, teint foncé, barbe islamiste, 2 d'entre eux pourraient être des tueurs tchétchènes. Cela voudrait dire que cette opération associe les unités spéciales des Kadyrovtsi aux équipes traditionnelles des services de renseignement russes. On n'a aucune identité concernant le 3e bonhomme, à part ce portrait robot.
Un autre papier glissa devant Edgar. Un dessin d'artiste qui représentait un homme d'une 50aine d'années avec d'épais cheveux blancs bouclés. Très épais, glabre, des rides profondes, un teint bistre, une tête de voyou.
« Probablement un Roumain, » reprit Paul. « Un agent local du Russe. Ta mission consistera, entre autres, à l'identifier. »
Pourquoi ces 3 hommes s'en sont-ils pris à notre correspondant ? Et comment sait-on que les Russes sont impliqués ? Paul eut un sourire nerveux.